Salut, c'est Champ Libre. Dans cette émission, nous avons souvent parlé de la crise du disque, Damien.
Eh oui, en effet.
Nous avons évoqué les nouveaux modes de diffusion et de distribution de la musique. Nous avons constaté la disparition progressive du support CD et par ricochet celle des disquaires indépendants. Eh bien aujourd'hui, un autre objet auquel on tient subit les assauts du numérique. Je veux parler du livre. Cette chose, alors je ne sais pas si on peut dire une chose, c'est plus que ça, mais cette chose qui est imaginer, penser, concrétiser par ce qu'on appelle des auteurs, un auteur, et puis ensuite distribuer, on ne sait plus trop comment, pour arriver finalement sous les yeux du commun des mortels que nous sommes, à savoir les lecteurs. Ce soir, on va donc laisser de côté la musique, pas très longtemps, hein, jusqu'à la semaine prochaine, et on va faire un petit peu de place aux libraires et aux lecteurs. Vous êtes dans Champ Libre numéro 587. Laurent assure la technique de l'émission et je vous présente tout de suite mes premiers invités. Alors, je vais commencer par les dames. Marie-Laure.
Bonsoir.
Marie-Laure qui est libraire.
Libraire à Bourgoin, ma petite librairie.
Ma petite librairie à Bourgoin-Jallieu avec son acolyte. Esther.
Bonsoir, donc Esther, libraire également avec Marie-Laure à ma petite librairie à Bourgoin.
Nous avons invité également des lecteurs qui fréquentent les petites librairies. Dominique,
bonsoir.
Et
René, bonsoir, lecteur amateur de liberté.
Et fan de Léni Escudero.
C'est toi qui l'as dit.
C'est pas moi. Et puis évidemment Damien, que vous connaissez.
Bonsoir.
Qui d'habitude nous parle de métal. De rock metal, mais il paraît qu'ils savent lire aussi, paraît-il. Voilà, pour débuter cette émission, une fois n'est pas coutume, je voudrais citer Flore Pellerin, madame la ministre de la Culture. Je vois vous mettre au garde à vous, c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire hein, en ce moment.
Non, c'était pas un garde à vous.
On sort le drapeau. Alors, je cite Flore Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, à l'occasion des 3e rencontres nationales de la librairie à Lille, c'est dans le Schnorr, ça, le lundi 22 juin 2015, voilà ce qu'elle dit, entre autres, que l'on s'y sente chez soi ou au contraire intimidé, la boutique du libraire n'est pas une boutique comme une autre, qu'on y vienne glaner. Parmi la profusion des livres, vous, libraires, vous ouvrez le chemin des lecteurs. La culture vit mieux parce qu'elle a besoin de passeurs. Alors, les animateurs livres de l'émission Champ Libre, on aime bien les présenter justement comme des passeurs. Je cite encore Flore Pellerin. Un libraire sera toujours plus qu'un vendeur de livres, une librairie bien plus qu'un commerce. C'est la boutique où l'on se réfugie pour découvrir le monde et pour tâcher de le comprendre. Elle rajoute qu'il y a 2 ans à Bordeaux, vous n'aviez pas caché votre inquiétude face à l'avenir des librairies indépendantes frappées par des crises économiques et affectées par les nouvelles formes de concurrence. Alors, c'est pour tout cela qu'on se retrouve ici ce soir. Moi, là, pour une fois, je trouve qu'elle a raison. Sur la position, la place du libraire, mais également sur la crise qui frappe la librairie et le livre après avoir frappé l'industrie musicale. On va peut-être commencer cette émission en parlant du livre. Alors, on oppose souvent, depuis quelque temps, le livre au numérique. Pourquoi le livre plutôt que le numérique, Esther, vous qui êtes libraire?
Pourquoi le livre plus que le numérique? D'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le livre papier, ça c'est très important, le livre qui se prête, qui se partage, le web, on est tout seul devant son écran, on partage peut-être des articles, mais on est tout seul. Voilà, ça c'est une raison.
Après, je pense qu'on peut aussi dire que ça ne s'oppose pas forcément. Je pense qu'on est aussi dans un monde qui change et que les supports numériques, ça a du bon aussi sur certaines choses. Ça n'empêche pas que lire un roman sur papier n'équivaut peut-être pas de lire un roman sur une tablette, mais qu'une encyclopédie sur une tablette, ça a parfois son utilité aussi.
Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. On oppose souvent au numérique, on oppose souvent le livre. Et on fait référence au livre numérique dans une tablette, c'est-à-dire des pages que l'on tournerait sur un écran. Mais le web, c'est pas que ça. Hein, Wikipédia, on pourrait parler de la validité de la chose, mais il n'y a pas que le livre, il y a des tonnes d'informations dans le net. Je me fais l'avocat du diable, René.
Oui, bien sûr qu'il y a des tonnes d'informations et elles sont immédiatement accessibles. Mais c'est pas la même chose que de pianoter sur son clavier, de regarder sur l'écran, que de compulser, je vais, je reviens, c'est pas la même chose. Mais je crois que la bagarre entre le livre papier et le livre numérique, c'est un débat intéressant. Mais on passe à côté d'un grand aspect du problème, c'est celui du contenu. Il y a eu la même problématique quand Gutenberg a trouvé ses petits caractères. Voilà. Et donc là, c'est les moines copistes qui se sont mis à hurler, mais ils hurlaient moins peut-être parce qu'ils allaient être au chômage, mais ils hurlaient parce que eux, ils avaient le monopole de la rédaction, de la diffusion. Et le vrai problème là, c'est le contenu. Et c'est une question de contenu, de pouvoir sur la pensée, donc une question de liberté.
Oui.
Juste un petit mot par rapport, non pas le livre numérique et le livre papier, mais le livre et le web. En effet, le web, c'est de l'écriture, mais c'est uniquement de l'écriture. C'est un apport de savoir ou d'information. Le livre, c'est plus que de l'écriture. Ça peut être une émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus riche que l'écriture du web.
Je voudrais juste vous lire trois phrases extraites d'un livre qui est écrit par un psychanalyste qui s'appelle Monsieur Serge Tisseron, stéphanois, je crois. Son livre s'appelle 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans, et il a été distribué en masse auprès des pédagogues ces dernières années. Alors il explique ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, à savoir qu'il ne faut peut-être pas opposer les deux choses. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une sacrée différence entre ce que propose le web et ce que propose le livre papier. Là, ça va être un peu en contradiction avec ce que disait Esther. Il dit, c'est Tisseron qui dit ça, la culture du livre, c'est une culture du singulier, c'est-à-dire il y a un auteur, une personne, qui écrit pour un lecteur, qui est seul, qui lit le livre, il y a une relation directe. Alors que le web, c'est la culture du multiple, c'est-à-dire on construit une œuvre en commun, on la partage à plusieurs. Voilà. Alors, grand débat. Moi, je serais bien ennuyé pour dire de quel côté je penche. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. J'ai visionné, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit film. C'est pas très radiophonique. Un petit film qui a été réalisé par trois lycéens du collège Philibert Delorme. Du lycée Philibert Delorme, pardon. Damien en fait partie. Ce serait bien qu'on puisse le montrer quelque part, ce petit film. C'est un petit film qui parle justement du numérique et du livre. Alors, Damien, rapidement, en une ou deux phrases, qu'est-ce qui ressortait de cette enquête que vous avez réalisée au lycée Et concernant la position des lycéens, entre autres, face au numérique et face au papier.
Alors bon, déjà le projet ne concernait pas nécessairement que le livre, mais ça s'étendait aussi au film et à la musique. Mais on voit quand même qu'il y a un rapport qui est vraiment générationnel par rapport au numérique et au livre. Nous, ce qu'on avait, dans notre sondage, on avait vu que trois quarts des jeunes préféraient Internet. Moi, il se trouve que donc depuis, dans le cadre de l'émission, j'ai fait un sondage. Donc j'ai demandé aux élèves, aux lycéens que je connaissais qui lisaient leur point de vue sur les liseuses et l'avenir du livre. Donc l'avenir du livre, tous sont unanimes en fait, c'est pour eux, c'est pas concevable que le livre en papier disparaisse.
Est-ce que pour autant il y en a beaucoup qui utilisent des liseuses? D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup qui lisent?
Moins. J'ai eu beaucoup plus de mal à faire un sondage parmi les lycéens qui lisaient que parmi les lycéens qui faisaient une des trois parties culturelles que j'ai citées précédemment.
C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les études. Crise, oui, mais crise des lecteurs aussi. Il y a de moins en moins de gens qui lisent. Je sais pas, on pourrait parler de la presse et des journaux. Dans votre petit film, il y a des tranches d'âge qui me semblent intéressantes. C'est-à-dire, tu viens de le dire, les moins de 20 ans penchent pour le numérique. Je sais plus ce que c'est.
Oui, les 30-40 ans, c'est quelque chose de... C'est un peu une période charnière, alors que, par exemple, les plus de 50 ans, on aura vraiment quelque chose de rester quand même dans cette tradition de le livre papier et rien d'autre. Et les 30-40 ans, ils sont plus flexibles, je dirais. C'est pas... numérique ou papier, c'est numérique et papier.
Et, autre question, est-ce que les lycéens que vous avez interrogés fréquentent les librairies ou est-ce qu'ils fréquentent leur fauteuil et clavier d'ordinateur lorsqu'ils veulent consommer un livre ou un disque d'ailleurs?
Alors c'est mitigé, disons qu'ils préfèrent généralement le facteur proximité quand il s'agit d'une librairie. Ils iront pas nécessairement vers celle qui leur plaît le plus, mais celle qui est le plus pratique, celle qui sera la plus proche pour acheter.
Ok, revenons-en donc à la situation du livre. Papier ou numérique, je crois que la question se pose un petit peu moins qu'il y a quelques années, puisque Esther me disait tout à l'heure que Amazon, par exemple...
Oui, Amazon comprend que... C'est bien il se rend compte que les librairies sont importantes et il vient d'ouvrir une librairie aux États-Unis. Donc c'est un signe quand même.
Oui, je crois qu'ils se rendent compte surtout que les liseuses se vendent beaucoup moins bien que prévu.
Voilà, tout à fait.
J'ai un petit article qui dit là que, alors c'est en Angleterre, c'est pas aux USA, qui dit que, un spécialiste du numérique, qui dit que les liseuses pourraient devenir l'un des produits technologiques ayant eu la durée de vie la plus courte. Bon, en même temps, ça fait marcher l'industrie de l'électronique.
Et tout à l'heure, vous parliez des réunions nationales de libraires à Lille. Il y avait de présent un représentant anglais, britannique.
C'est pas si loin que ça de l'Angleterre.
c'est vrai. Et lui-même disait que les librairies ont vraiment subi plus qu'en France, une grosse disparition. Enfin, elles ont beaucoup disparu en Angleterre. Et elles reviennent et que les liseuses...
Alors, ce qu'on disait également, c'est que Amazon, ce type de librairie ouverte par les grands distributeurs du web, un avantage terrible, c'est qu'ils ont l'enquête d'opinion gratuite qui, elle, reflète en fait des commandes et de ce qu'ils vendent sur Internet. Alors que vous, par exemple, petit libraire, c'est un petit peu plus difficile pour savoir ce qui va se vendre à Meur demain matin.
C'est à ce moment-là, je pense qu'on a le rôle de passeur, vous disiez tout à l'heure. Est-ce que le travail du libraire, c'est justement peut-être l'inverse d'Amazon, c'est-à-dire qu'Amazon va voir ce qui se vend et va se dire « il me faut du stock pour les titres qui se vendent », tandis que nous, on va voir ce qui va paraître et on va se dire « bah tiens, ce livre-là, j'ai envie de le porter, j'ai envie de le présenter à mes lecteurs », et on va avoir ce rôle de faire un choix dans la production éditoriale.
Oui, mais est-ce que pour autant, vous n'avez pas besoin justement du gros volume de vente assuré.
On a besoin aussi des grosses ventes. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr qu'on veut. Il faut qu'on... C'est pour ça qu'on a voulu être généraliste aussi. Il faut vendre de tout et pouvoir avoir chaque demande, répondre à chaque demande du lecteur.
Si je fais un portrait rapide de la situation de l'édition du livre ces dernières années, donc les nouveaux modes de consommation Internet, les grandes surfaces culturelles. Alors, grande surface, ben, les supermarchés hein, qui ont un rayon livre. Grande surface culturelle, je pense, vous savez, à l'agitateur qui était culturel il y a quelques années. Est-ce que ça représente réellement un gros danger pour vous en ce moment dans le coin, là, Bourgoin-Jallieu, vous êtes servi, vous avez deux grandes surfaces du livre.
Il se trouve que quand on en a ouvert, il n'y en avait qu'une. Et quelques mois après, il y en avait deux.
Pas de chance.
Donc, sur une petite ville comme Bourgoin, c'est vrai que ça fait beaucoup. Après, on arrive à se différencier. On a réussi à avoir notre clientèle justement par ce travail-là, par l'accueil, par tout ce que peut apporter une petite librairie en plus.
On va lever le pied et les yeux de notre livre et écouter un tout petit peu de musique. On va aller faire un tour du côté du nouvel album de M. Joe Jackson, qui n'avait pas fait grand-chose depuis longtemps. Le nouvel album s'appelle Fast Forward et le titre « So You Say ». Jackson, c'était la petite pause musicale, une petite pause musicale de cette émission qui en compte peu aujourd'hui. Nous avons à côté de nous, en face de nous, autour de la table de Champs Libres, deux libraires, Esther et Marie-Laure. À vous deux, vous êtes les propriétaires, animatrices, passeuses de livres de ma petite librairie à Bourgoin-Jallieu. C'est où ma petite librairie, en parenthèse, à Bourgoin-Jallieu?
Alors déjà, c'est une création. Ça, c'est très important. Une création. Et c'est juste derrière la Halle Grenette, deux places de la Halle, à Bourgoin.
Donc, oui, c'est pas en périphérie, au milieu des grandes surfaces. C'est en centre-ville. Moi, je me poserais la même question si un copain me disait « Tiens, je monte un magasin de disques la semaine prochaine à Four. » Donc, je vous pose la question, quelle idée vous avez eue d'ouvrir une librairie à Bourgoin-Jallieu et puis d'ouvrir une librairie tout court? On est en 2015.
Alors, on a ouvert en 2011. Bon, la situation était à peu près semblable. Bon, il se trouve qu'avec Esther, on s'est retrouvés toutes les deux au chômage, qu'on était toutes les deux libraires. Esther est libraire même, on peut dire, de famille, c'est-à-dire que son petite fille de libraire,
ça
voilà.
Ça se transmet.
Et on est libraire voilà, aussi de formation, de métier, de passion. Voilà.
On a travaillé 8 ans ensemble.
Et voilà, on avait travaillé longtemps ensemble avant d'être au chômage et on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc après, c'était soit, comme vous disiez tout à l'heure, on postulait dans les grandes surfaces culturelles, ce qui ne nous enchantait pas vraiment. Et on trouvait qu'il manquait à Bourgoin cet espace, cet endroit où on peut parler du livre, être accueilli, avoir du conseil, un lieu sympa et un lieu accessible. Tout à l'heure, vous parliez de la peur de rentrer dans une librairie dans le discours de Fleur Pellerin. Et on voulait l'opposé de ça, c'est-à-dire que voilà qu'on puisse se sentir bien et que voilà même si on n'est pas un grand lecteur, ça puisse être un lieu.
Mais bon, moi, je comprends ce qu'elle dit, Fleur Pellerin. On rentre dans une librairie, pas comme on rentre au commissariat ou dans une pharmacie, mais ça va faire rire mes auditeurs, un peu comme on rentre dans une église. Il y a quelque chose de l'esprit qui... Moi, ça me fait cet effet-là. Quand je rentre dans une librairie, je ne connais pas les libraires, oui. Mm. Puis en général, vous choisissez bien le cadre.
L'ambiance.
Très beau le cadre, d'ailleurs, de votre...
On a un beau local avec des arches en pierre, de grandes vitrines, c'est vrai.
Non, Dominique, tu...
Et moi, disons que j'ai commencé à lire, c'est mon professeur au lycée qui nous a incité à lire, nos professeurs de français notamment. Et à l'époque, c'était dans les années 60, les librairies, c'était des librairies indépendantes. Et à part, il n'y avait des FNAC que dans les très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, il n'y en a pas à Lille. Et donc, j'étais habitué à fréquenter ce genre d'établissement. Alors après, comme tout le monde, je suis allé voir d'autres modes de distribution du livre, les FNAC notamment, et puis Internet plus tard, mais je suis revenu aux librairies indépendantes, et là, à Bourgoin, disons qu'on est bien tombé avec la petite librairie.
Alors, revenons-en aux libraires, puisqu'on les a avec nous, on va les maintenir encore un petit peu sur le grill. On a parlé tout à l'heure de la situation du livre et du marché de l'édition. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Marché de l'édition, c'est ça ?
Marché du livre.
On n'a pas parlé des auteurs, d'ailleurs, mais ça mériterait une autre émission.
Aussi,
il y a la loi sur le droit d'auteur.
Disons que l'auteur, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de bouquin. Et c'est lui qui est peut-être le plus maltraité dans tout ce chemin qui va de l'œuvre qui est créée justement par l'auteur jusqu'à celui qui va lire, le lecteur, à l'endroit où il va se retrouver en rencontre avec la petite librairie. Il y a tout ce chemin qui est à faire, et dans ce chemin, s'il n'y a pas l'auteur au début, il n'y a rien derrière, et c'est lui qui est peut-être le plus maltraité dans tout ce chemin.
Merci René. J'ai une fiche quelque part qui indique que c'est une enquête étude américaine, parce qu'on n'a pas la même chose en France, mais qui explique que les revenus des auteurs ont baissé de manière catastrophique, sauf pour les 10 plus gros vendeurs, je pense à Stephen King, Al Rey, gens comme ça.
Je peux te donner une anecdote qui date de la semaine passée. Je connais quelqu'un qui vient d'écrire un bouquin, quelqu'un sérieux que je connais depuis une quarantaine d'années. Son bouquin ne se vend pas tout à fait 16 euros en librairie. Il gagne 2 euros sur les 16 euros. Bon, ben, ça laisse rêveur.
Alors, on pourrait tenir le même discours, là je m'adresse à mes auditeurs fidèles, on pourrait tenir le même discours sur la musique, hein, le grand discours sur le piratage, que il paraît que les artistes pourront toujours payer un sandwich en donnant quelques concerts. Hein. Je pose la question, combien d'entre vous vont au concert tous les jours?
Voilà. Tout le monde a levé la main.
Tout le monde a levé la main. Alors, revenons-en au livre. Oui, effectivement, les auteurs ont de gros problèmes actuellement. Mais quels sont les problèmes particuliers aux librairies indépendantes, et en particulier les petites librairies indépendantes? C'est quoi qui plombe votre métier? Je ne sais pas, il y a d'autres commerces qui fonctionnent.
Il faut savoir que la librairie, c'est un des commerces qui a la rentabilité la plus faible. Juste pour parler chiffres, on est à 0,6% du chiffre d'affaires. Et en comparaison, j'ai regardé un petit peu avant, l'électroménager, c'est 13,5%, la maroquinerie, 9%, la parfumerie, 7%. Et on ne parle pas des opticiens. Donc du coup, ça nous laisse vraiment un équilibre très fragile. Et il se trouve que nos charges, elles, par contre, sont toujours fixes, voire même augmentent. Au niveau du loyer, par exemple, quand on est une librairie indépendante, on est en centre-ville. Les loyers de centre-ville, ils ont un coût aussi.
Alors justement, en région parisienne, j'ai vu qu'énormément de librairies du centre s'étaient expatriées à la périphérie. Les loyers, les frais de port?
Les frais de port. Et surtout, posez-vous la question pourquoi certaines grandes surfaces culturelles, Fnac ou autres, ou Cultura, pour ne pas les citer.
Bon, on fera pas de pub. Hein.
Non. Pourquoi ont-ils diminué, peut-être pas, mais leur surface de livres, mais surtout augmenté leur surface de bouilloires et autres aspirateurs et autres instruments de musique, parce qu'ils ont une marge supplémentaire bien plus importante que la marge qu'on peut avoir en librairie.
Le prix du livre est fixé.
Le prix du livre est fixé par l'éditeur. Par l'éditeur, c'est ça, c'est le seul commerce. Le prix du livre est fixé par l'éditeur et c'est l'éditeur qui accorde une remise au libraire. Alors que pour n'importe quel autre objet, vous achetez un t-shirt, vous l'achetez 10 euros, vous voulez le vendre 100 euros, tant mieux pour vous si vous le vendez 100 euros. Moi, mon bouquin, il fait 100 euros. L'éditeur, il m'a fait une remise de, en moyenne, 33%
dessus. Votre marge, vous la prenez là-dessus.
Voilà.
Oui, mais il paraît que ça a sauvé le livre.
Mais merci Monsieur Lang, merci la loi Lang de 81, parce que le livre a un prix unique. Partout, à Marseille, à Lille, n'importe où, le prix aura le même livre. Le même prix,
le
pardon.
Le livre aura le même prix, on avait compris. Et comment on peut sortir de cette situation, René, tu avais...
J'ai une idée, mais je ne sais pas si Madame Fleur Pellerin serait d'accord. Je bondis sur le propos d'Esther qui disait « grande surface culturelle ». Est-ce qu'une grande surface peut être culturelle? Moi, je crois qu'il y a deux logiques qui s'opposent à propos du bouquin, mais comme pour beaucoup d'autres produits, et est-ce que le livre est un produit plutôt qu'une œuvre? Il y a d'abord la logique financière pure, fabriquer de la marchandise, et le contenu et le contenant qui va rapporter un maximum en un minimum de temps, quitte à conditionner préalablement la clientèle par des campagnes de pub. Cette logique-là, si elle rapporte à des gros, elle est mortifère pour la création et pour la diversité. Et d'autre part, il y a une logique culturelle, et j'espère que Madame Fleur-Pellerin nous écoute, une logique culturelle qui doit valoriser d'une part la création, l'auteur dont je parlais il y a quelques instants, qui est au début du chemin, qui est essentiel, indispensable. Pas d'auteur, pas de livre, pas d'auteur de paroles, pas de chansons, pas d'auteur compositeur, pas de musique. Et aussi valoriser la librairie, qui est en contact direct avec celui qui est à l'autre bout du chemin, sans lequel il n'y a pas de livre non plus, c'est le lecteur.
Qu'en penses-tu, Damien? Parce qu'on parlait tout à l'heure hors antenne, en venant participer à cette émission. Damien me disait, en matière de musique, par exemple, le numérique a tué le disquaire, a tué le disque, mais l'artiste peut se nourrir en donnant des concerts.
Bah, c'est d'ailleurs leur principal revenu, les artistes, c'est pas le disque, c'est les concerts, c'est toutes les prestations qu'ils ont en live.
Oui, alors là je rejoins ce que disait René tout à l'heure, combien d'artistes, et on passera au livre après, ont les moyens de faire Bercy, c'est-à-dire de bien gagner leur croûte. Hein, l'artiste local qui fait un concert en première partie au Ninkasi à Lyon, publicité gratuite, il n'est pas payé. Hein, on dit coco, tu fais le concert pour... Voilà, ça, oublions la musique un petit peu, ça, ça n'existe pas pour les auteurs et pour le livre. Donc j'ai envie de dire que le libraire est pratiquement incontournable. Alors on me répond oui, mais sur Amazon par exemple, il y a des moteurs de recherche qui apprennent ce que tu aimes et qui petit à petit vont te conseiller les choses. Alors, je vois René qui...
Je regarde Esther et je regarde Marie-Laure. Vous êtes notre moteur de recherche. Sincèrement, j'ai plus, une préférence.
Plus, oui. Plus sérieusement, est-ce que le rôle de conseil du libraire, tu parles de grandes surfaces culturelles tout à l'heure, le problème des grandes surfaces,
c'est pour moi, c'est antinomique.
Elles sont tellement grandes que parfois on voit pas le libraire.
J'en parlerai tout à l'heure si on vient à décrire un peu ce qu'est la petite librairie, mais...
Oui, non. Esther.
Juste une aparté. Grande surface culturelle, ce n'est pas nous qui le disons. Elle se nomme comme ça.
J'ai bien compris.
Mais c'est un terme officiel dans les statistiques officielles. Mais c'est pour faire la différence entre les marchands d'épicerie et les...
Et pour revenir au rôle du libraire, de la petite librairie, la librairie indépendante, par rapport à ces grandes surfaces culturelles, c'est qu'eux sont des marchands de livres. Ils vendraient des petits pois, ce serait pareil. Et nous, nous conseillons des livres et nous mettons en valeur ce que l'on aime ou ce que l'on pense que notre client, le client qu'on a en face de nous, va aimer.
Alors, vous êtes là, ma petite librairie est représentée au complet. Vous avez des difficultés, vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés dans ce cadre-là. Quelles sont les difficultés que rencontre ma petite librairie aujourd'hui et quelles solutions vous pensez avoir trouvées à la chose ?
Bon, les difficultés, c'est qu'on est encore jeune, on a 4 ans d'existence et c'est long et en même temps très court. Quand on voit la durée de vie d'un commerce, c'est assez court aussi. Et puis, on a encore un emprunt sur le dos, normal. Et puis, on a la difficulté d'être là où on se trouve, Henri Piétonne, qui est en travaux depuis quelques jours et qui va l'être pendant 2 ans.
Et le loyer coûte cher.
Et le loyer coûte cher et rien ne baisse. Et on a la difficulté avec nos fournisseurs qui ne nous suivent pas toujours et qui ne nous accordent pas toujours les remises souhaitées. Entre autres, on a deux difficultés aussi, mais on va y passer l'émission.
D'accord. Comment on peut s'en sortir ? Comment on peut essayer de régler au moins une partie de ces problèmes, Marie-Laure ?
Déjà, il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'on est... On n'est pas tout seul, on s'en est rendu compte. Donc du coup, on s'est dit que cette librairie ne concernait pas que nous deux, les deux libraires qui travaillent dans cette librairie, mais que ça concernait aussi tous nos clients et puis toute une ville également. Et donc du coup, on a lancé un financement participatif sur Ulule. On a fait appel.
Alors, qui en une phrase, René, tu nous expliques ce que c'est un crowdfunding ?
Oui, on n'emploie pas des gros mots. Financement participatif. Soit par Internet, soit en allant à la petite librairie, on peut faire un don qui va aider au financement, à arranger les comptes. Je vous fais cadeau des additions, des soustractions.
Il faut des sous, en gros.
Oui, c'est ça. Ben c'est un peu le nerf de la guerre. Et selon les dons, elles pourront arriver à garder un emploi ou sûrement 2 emplois et peut-être même plus pérenniser, développer. Bref, mais là, sur Internet, avec le site Ulule, puis en allant à la petite librairie, vous aurez les coordonnées.
René, c'est ma petite librairie, c'est pas la petite librairie.
Je vous prie de bien vouloir accepter mes plus humbles excuses, Madame Esther.
D'accord.
Alors, pour les personnes qui ont un stylo ou une tablette pour noter, ma petite librairie, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche, pas obligatoirement les plus connus, vous tapez Ulule, U-L-U-L-E.
Voilà. Et ma petite librairie.
Et dans le moteur de recherche de Ulule, on tape ma petite librairie. J'ai essayé, j'ai même réussi à à y aller. Alors après, c'est un petit peu plus long, hein. Il faut créer un compte. Ils sont pas sympas, ces gens-là. Il faut créer un compte, il faut donner son nom, son prénom, son numéro de carte bleue, si on veut participer à la chose.
On est consciente aussi que ça, c'est un mode de fonctionnement qui peut ne pas convenir à certaines personnes. Donc du coup, on a aussi la possibilité de directement venir en librairie. Ou, enfin voilà, on peut envoyer un chèque. On peut...
Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Tiens, pour soutenir ma petite librairie, je vais aller acheter un livre. » Alors, commencer d'abord par la campagne de financement participatif. Enfin, si vous n'aimez pas Internet, vous avez certainement un neveu, une nièce ou un voisin ou une voisine qui est capable de manipuler cet outil monstrueux. Non, je plaisante. Donc, je répète, Ulule, U-L-U-L-E, dans le moteur de recherche de Ulule, vous tapez « Ma petite librairie » et vous verrez qu'il reste encore 50 jours pour participer à la chose.
Oui, je voudrais juste dire, moi je préfère le terme contribution que don. Parce que quand on contribue, on est concerné par la chose.
On va faire un petit tour du côté du sable chaud. Pas des légionnaires, il y en a qui traînent dans le coin, il n'y a pas que d'ailleurs. Je vous propose un titre du groupe Touareg Tinariwen. Si vous êtes habitué de l'émission, vous les connaissez. Ce titre, alors j'ai pas cherché la traduction, Azawad. L'album a été enregistré en public à Paris. C'est une nouveauté.
Thank you.
Tina Riwen, nouvel album, je crois que c'est un double album en public à Paris, le titre Azawad. C'est la musique électrique du désert d'aujourd'hui. Il fonctionne au solaire là-bas, les amplis. Tiens, on a parlé de libraire, on a parlé de librairie, on a parlé de livres, on n'a pas d'auteur, mais on en reçoit parfois. On va parler des lecteurs et on va faire parler les lecteurs. Alors je rappelle que cette émission parle du livre, de la crise du livre et de l'édition, et qu'elle parle plus particulièrement des difficultés que peuvent rencontrer les petits libraires, et en particulier la librairie dans laquelle on aime aller, qui s'appelle Ma Petite Librairie. Alors, je trouve un peu étonnant que tout le monde dise « ma petite librairie ». Maintenant, je vais être presque jaloux. Il y a d'autres libraires qui disent... Donc, pas René, parce qu'il a déjà parlé beaucoup. Dominique, oui. Pourquoi tu lis d'abord ?
Ben, je lis... D'abord, je voudrais aborder un autre aspect. C'est que pour qu'il y ait des lecteurs, il faut habituer les enfants, les petits-enfants, à lire. Et c'est ce que je fais avec mes petits-enfants. Et justement, il n'y a pas d'autre endroit qu'une librairie indépendante, et où on a un accueil, où on a un coin enfant qui est remarquable. Je ne vois pas les faire lire dans un hypermarché, et ils se croient là comme dans une médiathèque, et ils s'habituent à lire les livres, et je crois que ça, c'est comme ça qu'on aura des lecteurs, et que les lecteurs préféreront le lire, ces lecteurs-là préféreront le papier.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à un adulte ou un ado, ou peu importe, pourquoi lire? Il y a des gens que j'ai entendu quelqu'un l'autre fois dire, moi je préfère aller au cinéma parce qu'au moins il y a des images et ça bouge.
Mais c'est pas contradictoire, on peut être un lecteur et aller beaucoup au cinéma. Enfin, moi je vais pas mal au cinéma, mais je lis aussi. Et pourquoi lire? Ben parce que on s'enrichit en lisant, on s'enrichit aussi bien en lisant de la littérature que d'autres choses, mais spécialement en lisant de la littérature.
Et René, c'est bientôt ton tour. Le numérique, toi, c'est pas quelque chose qui te...
Non, enfin, je suis pas contre le numérique, mais pour moi, on en parlait tout à l'heure, bon, ça pourra remplacer les encyclopédies pour avoir de l'information factuelle, mais pour lire un roman, je vois pas bien ça sur une tablette, et encore moins sur un écran d'ordinateur. Or, la tablette, elle fait que ça, outil de lecture, alors que l'ordinateur est quand même beaucoup plus vaste.
Oui, tu opposes ce qu'on appelle les liseuses.
La liseuse, c'est le vrai concurrent du libraire, mais pas l'ordinateur, à mon avis.
On va faire parler le John. Pourquoi tu lis?
Bah, en fait, c'est finalement un peu ce que disait Dominique, c'est-à-dire que des tout petits, ma mère, elle m'a dit... Ben, tout de suite donner le goût du livre.
Bon, ça c'est bon, c'est la faute à ta mère ensuite.
Voilà. ça s'est poursuivi au collège avec une super prof de français.
Encore des passeurs. Il n'y a que les profs qui donnent envie de lire.
Ben, dans mon cas, oui, dans une famille de profs, c'est...
Ouais d'accord, mais t'es pas gâté.
Ça t'est arrivé fatalement.
Et le numérique, j'ai cru entendre dire que tu numériquement lisais.
Alors justement, oui, je fais partie de ces gens flexibles que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, en fait, l'avantage de la liseuse, c'est le fait que tous les livres tombaient dans le domaine public, c'est-à-dire donc ceux dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans, sont gratuits. Ce qui fait que ça permet de se constituer une bibliothèque de classiques que je n'aurais peut-être pas fait si ce n'avait pas été gratuit, si je n'avais pas eu la possibilité aussi rapidement et facilement. En revanche, je me refuse à acheter un livre sur Kindle et je préfère l'acheter en papier.
Ça, c'est pas éthique. Mais le c'est pas faux ce qu'il dit. Il y a des tonnes de livres qui sont introuvables aujourd'hui et qu'on peut lire grâce au numérique.
Introuvables, mais là, c'est pas le propos. Là, c'est pas des livres introuvables, c'est des livres classiques tombés dans le domaine public.
Ouais, mais
je pense que le combat du prix sur ce côté-là, pour moi, il n'est pas... Je ne dirais pas que ce n'est pas crédible, mais entre les médiathèques, entre le prix d'un classique à 2 euros, et, voilà, pour moi, ce n'est pas forcément une question de prix. pour basculer sur une bibliothèque numérique. Je pense que c'est une pratique, mais pas...
On remplacera, à mon avis, difficilement, en tout cas pour ceux qui l'ont connu dans l'enfance que vous décriviez, soit les petits-enfants, soit à l'école, l'aspect tactile, je tourne ma page, je reviens. Bon, le lecteur, par définition, c'est quelqu'un qui lit. Il se distrait, il s'évade, il rêve, il découvre des idées, il les confronte aux siennes, il s'enrichit, il apprend, il s'éduque, il se construit, il se cultive en tant que personne, en tant que membre de la cité. Et l'acte de lire, c'est quand même un des facteurs fondamentaux d'enrichissement personnel, d'émancipation et de liberté. J'ai deux chansons, mais non, t'en voudras pas. Mmh. Et donc, le livre, avec cet acte de lire, il compte dans les pièces essentielles de ce puzzle qui permet de construire patiemment, avec du temps, la culture qui est un élément constitutif de la citoyenneté. Et là, on est aux antipodes de l'immédiateté, de la consommation et du profit.
René, c'était la parole de René. Oui, j'entends tout ça, mais il y a quelque chose que tu as dit au tout début de ton intervention. Tu as dit ceux comme nous qui, c'est-à-dire ceux qui, voilà, qui sont plus proches de la retraite que l'inverse.
Ceux qui ont été habitués à manipuler et à s'enrichir, penser avec un bouquin dans la main.
Est-ce qu'on peut franchir le pas en disant que les autres ne s'enrichiront plus en aucune façon à travers aucun des médias ?
Alors voilà, moi j'ai une petite remarque quand même. Je trouve que... à la librairie, il y a en effet une catégorie de personnes, enfin un âge, les 15-25 ans, on va dire, qu'on voit beaucoup moins et que l'on revoit après parce qu'ils ont des enfants et ils tiennent à ce que leurs enfants lisent, touchent, manipulent et regardent des livres.
Esther, vous me faites penser à quelque chose. Grâce au cinéma, il y a tout un tas de jeunes, il y a quelques années, qui se sont mis à la lecture. Je pense, je ne sais plus comment s'appelle l'histoire de Voldemort, là, le
Harry Potter.
Harry
très
Potter,
juste.
Voilà.
Très juste.
C'est ça que j'arrivais pas à trouver. Grâce au cinéma, grâce au numérique, il y a une forme de littérature qui existe et qui existe à ma petite librairie. Dans le rayon du fond, la jeunesse, il y a plein de choses qui viennent du net, de la télé. Je ne sais pas, je vois des tas de personnes qui achètent les bouquins, là, les Game of Thrones, et qui du coup relisent Les Rois Maudits.
Oui, très juste.
C'est étonnant,
oui,
ça.
Très très juste, c'est vrai.
Mais le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi beaucoup de films ou téléfilms inspirés de livres, et du coup on se rend compte que finalement dans les livres il y a beaucoup de choses au départ qui sans les livres n'auraient pas été adaptées, et, etc.
René a dit au début de cette émission que avant Gutenberg on parlait pas de livres. Enfin, pas de cette forme de livre.
Et non.
Avant l'invention du piano, on ne parlait que du clavecin. Mais... Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre justement une période de transition dans laquelle, alors je ne sais pas si l'un va remplacer l'autre, peut-être pas, mais les deux risquent de cohabiter et que nous, habitués du papier, eh ben, on préfère encore sentir l'odeur de l'encre plutôt que l'odeur d'ozone dégagée par les composants électroniques.
Oui, on va voir, on ne peut pas être prophète, mais je ne vois pas quelque chose qui date d'au moins 5 ou 6 siècles mourir comme ça.
Oui. C'est justement ce que je disais en antenne. Et que j'avais constaté dans mes sondages l'année dernière, c'est que le livre, c'est quand même une tradition qui est beaucoup plus ancrée dans la mentalité. Enfin, je parle évidemment du livre papier, alors que la musique a connu différents supports, ce qui la rend peut-être plus facilement... on peut plus facilement changer de support, je pense, du fait des modifications qui ont été... qu'on a pu constater en un seul siècle, alors que le livre papier, ça date justement de 5 ou 6 siècles.
Le disque a duré un siècle.
Je pense qu'on est en train de parler du contenant, mais pas du contenu. Et en fait, je pense que la mutation qu'on vit, il faut bien se rendre compte que si on passe sur du numérique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Amazon a des façons de voir ce qu'on préfère lire et donc proposer des choses voilà, au client, parce que c'est un client, c'est plus un lecteur. Et donc, du coup, je pense qu'à terme, ça changera aussi la production. Et c'est là aussi que le libraire a un rôle, c'est-à-dire que, juste un petit mot rapide, dans les meilleures ventes de livres, il faut savoir que 60% des livres sont vendus en dehors des librairies indépendantes. On n'a qu'une petite part de 20%. Et donc, les meilleures ventes se font essentiellement dans ces autres structures. Et donc, si on regarde juste les meilleures ventes, ça peut donner une idée aussi de la production future, puisque ça sera ça. Et donc, on a, par exemple, pour l'année dernière, Merci pour ce moment de Valérie Trévelyan-Veller.
C'est qui?
Ou des romans, voilà, des grands romans à succès, voilà, et rien d'autre.
Ceux qui ramènent du pognon en le moins de temps possible.
Marie-Laure, comment dire, l'industrie du livre n'a pas attendu le numérique pour fabriquer des livres comme ça qui ne valaient pas grand-chose. À une époque, on parlait de presse de gare, de livres de gare.
Bien sûr.
Ça me rappelle des souvenirs d'étudiants que j'ai été, où une prof nous avait fait travailler sur la série Arlequin. On lisait les bouquins Arlequin, elle en a fait une thèse.
Après, je pense qu'on est à un stade où il faut se dire aussi que toute lecture est bonne. Il ne faut pas bannir une lecture. Et d'ailleurs, à la librairie, on ne bannit jamais un type de lecture non plus. Tout est important aussi.
On approche de la fin de cette émission. Je voudrais qu'on reparle de la campagne pour Ma Petite Librairie. Et je voudrais quand même terminer sur le sujet du contenu, de la valeur attribuée au contenu. Il y a 30 ans, lire des romans policiers ou des romans de science-fiction, c'était considéré comme être un culte. 99% des intellos, d'après ce que racontent les jeunes aujourd'hui que je connais, mon entourage, ne lisent que du roman policier. Alors, est-ce que le lecteur a changé? Est-ce que le roman a changé? De quoi parle le roman policier aujourd'hui? Je crois qu'il en parlait déjà dans les années 30 ou 40. Voilà. Grand débat.
On a dit la même chose sur la bande dessinée.
Oui. Pareil. Oui. Et puis les musiques populaires. Moi, j'ai entendu des phrases telles que « Et tu parles de culture, c'est pas une culture. » Ah bon. Voilà. Revenons-en à notre campagne de financement participatif pour faire plaisir aux Nord-Isérois. Bah, ils ne sont pas tous proches de l'Angleterre, c'est ça que je veux dire, les gens d'ici. Campagne de financement participatif sur le site Ulule, U-L-U-L-E. Donc, dans un moteur de recherche, vous tapez Ulule, vous arrivez sur le site Ulule, et dans le moteur de recherche de Ulule, vous tapez « Ma petite librairie », et faites chauffer la carte bleue. La librairie en a besoin. Il vous reste 49 jours.
À peu près.
Un peu plus.
50 jours, je crois.
50 jours, oui.
Jours.
Voilà.
Jusqu'au 27 janvier.
Alors, il faut savoir quand même, c'est que un objectif a été donné à ce financement, 30 000 euros pour commencer, et que si les 30 000 euros ne sont pas atteints, les sommes sont remboursées, et évidemment, ma petite librairie repart avec de beaux yeux pour pleurer. Donc, bougez-vous, il n'y a pas que la musique dans la ville, il y a également le livre, et puis les libraires. Alors, moi, je n'ai pas encore donné mon avis sur la chose, mais je vais le donner quand même. En général, on ne me pousse pas trop. Je ne pourrais pas vivre sans des personnes que je rencontre dans ce qu'on appelle les librairies, ce qu'on appelait autrefois les libraires, et avec qui je peux discuter de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, et qui sont capables de me connaître suffisamment pour me dire « Tiens, tu devrais essayer ça et ça. » D'accord ? Et il n'y a rien de plus jouissif que de ressortir d'une librairie avec un livre qu'on ne pensait pas acheter. C'est ce que tu voulais dire, René.
Tu m'as fait une belle transition, mais tu ne m'as pas coupé l'herbe sous le pied.
Finir le...
La petite librairie, elle fait, ma petite librairie, elle fait tout pour bien réussir la rencontre ultime sur le long chemin entre qui va de l'auteur jusqu'au lecteur. D'abord, elle vous apportez ce que j'attends d'un lieu de rencontre, même si c'est commercial. J'ai envie d'entrer, même si je n'ai pas besoin d'acheter. Il y a l'accueil, la convivialité, l'échange, le partage. Le lieu, il est à taille humaine. L'espace est appréhendé tout de suite. On n'est pas dans des kilomètres de linéaire et des étagères. Bon. Il y a des présentoirs à la hauteur des enfants. Il y a des coins, des recoins. Selon les thèmes, on peut fouiller, on peut s'asseoir, on peut prendre son temps. La lumière vient de l'extérieur dans la journée. Et ce n'est pas de la lumière artificielle. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et où qu'on soit, on peut voir les libraires et les appeler. Et justement, c'est les mêmes personnes qui sont présentes, souriantes, avenantes. On y est connu, reconnu. On peut questionner, parler, échanger. Elles sont disponibles. Elles sauront dénicher. Elles sont compétente.
Merci,
et
René.
J'ai pas mis de tiret entre.
Merci, René. Merci, Dominique. Merci, Damien. Et merci, Esther et Marie-Laure. Et
merci,
on espère vous voir longtemps derrière l'ordinateur sur lequel vous prenez les commandes. C'était Chant Libre. Bonne soirée. On se sépare avec. Une chanson écrite en 1968 par un dénommé Gérard Manset, et réactualisée en 2015. Ça s'appelle « Animal, on est mal ». Et depuis dimanche...
On avance, on recule avec la gémellité de la libellule.